Bonjour à tous.
Guillaume Auguste. Bonjour. Daniel Morat. Tanguy Bassereau qui sera là tout à l'heure. Et notre invité, Monsieur Thierry Lhermitte. Merci Thierry de venir à ce micro.
C'est récré.
Merci à vous.
Nous parler de la fondation. Oui. On vous aime aussi, hein, vous savez, c'est ça. Pour la Fondation pour la Recherche Médicale, qui fête ses 70 ans et qui a lancé depuis le 29 août une campagne d'information, une nouvelle campagne d'information sur la maladie d'Alzheimer, avec, j'allais dire, des moyens extrêmement modernes pour informer. Il y a des quiz sur Internet, il y a un livre blanc qui est publié, et surtout une volonté de faire progresser cette maladie. J'ai découvert un chiffre qui fait froid dans le dos. Toutes les 3 minutes, une nouvelle personne est atteinte.
En 2050, il y aura 105 millions de malades d'Alzheimer, dingue, si on n'a rien trouvé d'ici là.
Et là, il y a presque un million en France de personnes touchées. 900 000, c'est fou.
Mais quoi, ça accélère,
Entre autres, l'allongement de la durée de la vie et puis d'autres facteurs qu'on ne connaît peut-être pas encore.
Et puis, alors, ceux que l'on croit connaître ou comprendre, parce que même si on se dit qu'on est à l'abri de cette maladie, parce que personne dans la famille ne l'a jamais eu, parce qu'on est jeune, beau et fort et en pleine forme, il faut se préparer. En tout cas, il y a un terrain qui peut être favorable à ce que cette maladie progresse. Il faut se préparer physiquement, musculairement, dans l'hygiène alimentaire aussi.
Oui, continuer d'avoir une activité et physique et intellectuelle. La plasticité du cerveau fait que quand on a une partie qui est touchée, ça sera remplacé par une autre partie du cerveau. Mais sinon, c'est très peu sur la maladie d'Alzheimer. La recherche avance. Les essais cliniques, pour l'instant, qui ont été faits, ils ont été des échecs. On avance néanmoins dans la connaissance.
Et qu'est-ce que vous entendez, par activité pistes. Intellectuelle?
Lire.
Faire parler avec des gens, des jeux, mémoriser, avoir une activité intellectuelle. Et le truc qui a prouvé ça, tout simplement, c'est que le nombre d'Alzheimer chez les femmes a diminué dès que les femmes ont fait des études. Ça, c'est une étude anglaise qui a prouvé ça. Donc, c'est vraiment, ça ne soigne pas Alzheimer, ça ne prévient pas Alzheimer, mais ça fait que face à cette dégradation des neurones, on en a d'autres qui sont prêts à prendre le relais.
Il y a même une activité qui est comme le jardinage, pour ceux qui ont la chance de pouvoir jardiner, qui permet d'allier et l'activité physique et l'activité intellectuelle en planifiant, parce que le jardin a des règles bien précises qu'il faut respecter.
Je ne savais pas, mais c'est une bonne idée. Oui.
C'est la fondation qui me l'a dit, mais c'est pas grave, mon cher parrain. Il y a deux protéines, une qui s'appelle prion, l'autre qui s'appelle tau, qui seraient les clés peut-être de cette maladie.
Ce sont ces protéines qui s'accumulent dans certaines zones du cerveau, dans les hippocampes, et qui détruisent les neurones. Donc il y a on sait que ça définit Alzheimer. Le problème, c'est que avant on ne pouvait être sûr d'avoir une maladie d'Alzheimer que après le décès des personnes après une autopsie, à la recherche de ces protéines. Aujourd'hui, il y a eu, après 9 ans de recherche, il y a eu des tests cliniques et cognitifs qui définissent mieux Alzheimer. C'est encore un peu flou quand puis il y a des marqueurs en faisant des ponctions du liquide céphalorachidien, mais il y a des marqueurs, c'est pas encore 100%.
Non, mais ça prouve qu'il y a des pistes en tout cas, et ça prouve qu'il ne faut pas abandonner cette recherche, et contraire.
Non, surtout pas, parce financer, que c'est en train d'avancer. Voilà, exactement.
On avance. Il y a 4 projets qui sont portés par la Fondation pour la Recherche Médicale. On rappelle comment fonctionne cette Fondation pour la Recherche Médicale, parce que ils prennent pas au hasard ni le plus beau gosse qui arrive avec le plus beau projet qui aura le financement. C'est un collège de médecins et de spécialistes.
Un comité scientifique qui choisit les projets sur leur excellence et puis l'opportunité à un moment de développer tel ou tel domaine de recherche. Voilà. Et là, sur Alzheimer, par exemple, devant les besoins des chercheurs, les attributions sont passées de 1,7 million à 4,2 millions là, en 3 ans. Voilà. Donc c'est vraiment très important.
Et que la Fondation médicale se compte énormément sur les dons de nous tous, parce qu'elle n'a pas d'autre aide.
La Fondation, elle vit qu'avec les dons, les legs, etc. Et puis la recherche, elle en a besoin absolument. C'est un tiers du budget des chercheurs. C'est très, très important, le don privé. Voilà.
Vous êtes un excellent parrain, j'ai envie de dire, Thierry Lhermitte, parce que...
Il est formidable.
Vous vous en parlez comme si vous étiez un scientifique.
Je me renseigne, c'est vraiment je rencontre des chercheurs d'une part passionnants et puis qui vulgarisent le sujet, qui me permettent ensuite de le raconter. Et puis dans les moyens modernes et nouveaux, là, il y a le SMS qui permet de donner 10 euros très facilement. Voilà.
Envoyer Neuro au 92 300.
Ouais, c'est ça. Neuro, ça s'écrit NEURO. Pour
ouais,
pour dire.
Oui, ah oui. Ouais. Bah, c'est un euro, quoi.
Voilà, c'est comme l'euro avec un L devant.
Dès qu'il s'agit de pognon,
il est doué. Il est doué.
Non, mais ce qui m'énerve, c'est ceux
qui
font jamais la liaison avec euro. Ouais. Qui n'osent pas dire 100 euros, donc ils disent.
Parce qu'ils savent pas si on met un S ou pas.
Ils peuvent dire 100 euros, comme si
c'est pour donner 10 euros.
Voilà, c'est ça, exactement. Neuro, NEURO, au 92 300, Léla, voilà. T'as bien fait de le dire, parce que en plus, ce qui est très pratique et rapide, c'est que c'est prélevé sur la facture de votre fournisseur de téléphone ou ouais. d'internet, et donc c'est, il n'y a pas ce côté, est-ce que c'est sécurisé, est-ce que je dois taper mon numéro de carte bancaire, est-ce que je dois envoyer un ouais. chèque, à quelle adresse. C'est aussi simple que ça, c'est très rapide à faire. Tiens d'ailleurs.
Et on peut le faire aussi par courrier, j'imagine.
Oui, oui.
Et internet, sur le site internet, sur.
Tu envoies ton téléphone par courrier.
FRM.org.
Et se débrouille, hein.
Oui.
Aucun souci.
Mais de combien d'argent on a besoin, parce que
La FRM, elle distribue sur l'ensemble des maladies et des projets de recherche 45 millions cette année. Donc on a besoin de beaucoup d'argent, parce qu'il y a 150 maladies sans arrêt, il y a 850 projets de recherche en cours, il y a un chercheur sur trois sera financé dans sa carrière par la FRM. C'est très très important d'aider la recherche, parce que c'est notre santé, et celle de nos enfants plutôt. Pour la recherche, c'est plutôt celle de nos enfants.
Ouais, et au niveau mondial, est-ce qu'il y a une sorte d'alliance comme ça? Parce que dans les chiffres encore qui nous ont été communiqués, oui, 60%, c'est la, pour lire le chiffre, hein, 60% c'est la démence la plus fréquente au monde. Puisque selon l'OMS, elle représente 60 à 70% de tous les cas de démence. Donc ça veut dire que.
C'est énorme. Avec l'allongement de la vie, on peut pas s'en plaindre. Hein, mais du coup, on découvre cette maladie qu'on voyait moins avant.
Ouais. Voilà. Petite précision, quand vous envoyez ce que je viens de faire à l'instant, hein, le SMS NEURO, Neuro, vous au 92 300, vous recevez immédiatement derrière un texto qui dit confirmez-vous le don de 10 euros à la Fondation pour la Recherche Médicale. Là, vous envoyez OK. Non. Et c'est fait. C'est là où il y a les limites de la vanne, tu vois. Ça ne marche pas.
Est-ce qu'il y a un abattement fiscal sur le don?
Oui, pareil, ouais, 66%.
Ouais. Ok, très bien.
Ouais, mais sur 10 euros, qu'est-ce que tu as demandé un abattement?
T'as les moyens, toi. T'as les moyens. Je m'endette pour mon passe Navigo. Tu ne te rends pas compte.
Est-ce que vous, Tom Villa, vous avez bien compris pourquoi Thierry Hermite était notre invité?
Bah oui, j'aurais préféré qu'on le reçoive pour une autre promo. Et en même temps, c'est tout à votre honneur de mettre votre notoriété au service de cette cause que je connais bien, puisque ma grand-mère, qui nous a quitté il y a un an et demi, a été touchée par cette maladie pendant plus de 12 ans. Mon grand-père, son mari, qui a tout fait pour elle pendant ces 12 années, Dieu merci, n'avait pas Alzheimer tant qu'il était parmi nous. En revanche, la vie est pleine de surprises et de rebondissements. Ce qui est à peine parti, c'est mon grand-père qui s'est mis à dérailler et officiellement diagnostiqué Alzheimer il y a un mois. Donc là, c'est le moment où je dois faire des blagues. Voilà. Non, en tout cas, on peut féliciter la maladie qui a eu la délicatesse d'attendre le départ de ma grand-mère pour attaquer son mari. Pendant 12 ans, il a tenu la baraque sans broncher et d'un coup, tout a lâché, un peu comme une bagnole qui tombe en panne au moment où t'arrives sur le lieu de vacances, voilà. Non mais c'est fou, quasiment du jour au lendemain. Alors je vais parler de mon expérience personnelle. Parfois Alzheimer apparaît progressivement, on commence à avoir quelques indices. Un proche qui oublie une date, un grand-père qui oublie un visage, un ministre de l'économie qui oublie de déclarer un compte en Suisse, bref, la paperasse. Mais le vrai point de départ commence le jour où il y a des petites hésitations. La personne cherche ses mots, elle a une petite inversion de prénom. Alors au début, la personne ne sait pas qu'elle mouline, mais elle veut garder bonne figure. Tu sais, oh, ça va, attends, on peut plus faire de blagues. Attends, je sais que tu t'appelles Olivier, puisque François, bah oui, alors voilà, on peut plus déconner. Voilà. Mais à l'intérieur, ça cogite. Tu dis putain, pourquoi je l'appelle Olivier, bordel. Mais je rassure Nagui, parce que parfois vous mélangez les prénoms. Je suis pas médecin, mais vous enregistrez 218. N'oubliez pas les paroles par semaine. Donc les candidats, on les appellera tous Michel maintenant. Comme ça, ça tombera juste une fois sur quatre et ça fera l'affaire. Il y a l'étape 2, généralement liée à une petite perte de poids. Alors rien d'impressionnant. Non, hein, dans quelques kilos perdus, souvent qui sont en superflu avec l'âge. Avant l'été, c'est le bon moment. Comment a-t-elle fait pour obtenir un résultat aussi rapide, me direz-vous? Weight Watchers du camp? Non, elle oublie de manger. Voilà. Donc là, généralement, c'est le moment où on va voir son médecin généraliste. Donc le mec, ça fait 35 ans que tu le connais. Il sifflote quand il prend ta tension. Vous parlez plus de la météo que de ta santé. Le mec, il est tellement roue libre avec toi qu'il s'emmerde plus à te faire des ordonnances. Il fait des photocopies. Et là, tu débarques dans son bureau avec une perte de poids et il est perdu. Et le mec, il a que haut te dire, ah bah alors, on s'est remis au sport? Bah oui, elle a 72 ans, une hanche en plastique. Ça fait 50 bornes à vélo sur la roue arrière, connard. Non mais c'est, c'est fou. Donc là, c'est le début de la chute. Donc le médecin t'envoie vers un spécialiste parce que grippe, gastro-angine, c'est dans son champ d'action. Au-delà du space-fond, il galère un peu. Il t'envoie vers un neurologue qui, lui, très rapidement, met un coup de tampon sur la carte de fidélité, tu fais partie du club, tu as Alzheimer. Alors, petite précision avec cette maladie, tout ce que tu paumes, c'est fini. Tu peux faire une croix dessus. T'as beau prendre des médicaments que t'oublies généralement une fois sur deux, parce que sinon ça serait trop simple, tout ce que t'as oublié ne se récupère pas. En tout cas, ceux qui ont déjà laissé tomber leur portable dans les toilettes savent de quoi je parle. Hein. T'avais qu'à faire une sauvegarde avant, sauf qu'Alzheimer, c'est différent. Fous le feu à ta baraque. Si t'arrives à éteindre les flammes à temps, t'as du cul, mais les photos brûlées, c'est fini. Tu les retrouveras pas. Mais néanmoins, tu sais pas pourquoi il y a des trucs que tu pensais planquer dans des tiroirs depuis 50 ans et qui ressortent. Ouais, en 43 pendant la guerre. Non, non, attends, qu'est-ce que ça devait pas? Ça devait pas ressortir, ça. C'est pas normal. Alors, non, non, petite particularité d'Alzheimer, les fixettes aussi, ma grand-mère, c'était la vaisselle, on n'avait pas fini de manger à l'entrée, qui a nettoyé déjà les verres à vin. Ça m'arrive aussi, mais bon, c'est quand les gens m'emmerdent et que je veux les foutre dehors. Et puis, à un moment, on fait le pas sur la bande d'arrêt d'urgence, la personne ne te reconnaît plus. Et en plus, elle a des sautes d'humeur, donc elle t'appelle monsieur, tu lui dis que t'es son petit-fils, et en plus, elle t'engueule. Donc, tu lui demandes ce qu'elle a mangé ce midi, elle sait plus. Bref, quand t'arrives à ce niveau-là, c'est plus un feu de cheminée, c'est la tour infernale. Bref, ça va peut-être être un peu bateau, mais merci, Thierry Lhermitte, d'en parler, parce que grâce à vous, on n'oublie pas. Et bisous papy, bisous mamie. Oh. La bande originale,
la vie sur France Inter. Bravo Tom, parce que j'imagine qu'il n'a pas été facile à écrire ce papier, et en même temps, ce qui est délicat de ta part, c'est de l'avoir fait quand même avec cette pointe d'humour et de dérision. Mais là où c'est fort, et on va en parler Thierry Lhermitte, c'est que ceux qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, évidemment, souffrent énormément, mais l'environnement, la famille aussi, souffre de ce qui se passe, de ce déchirement. C'est Alain Souchon qui nous en avait parlé aussi à ce micro, qui avait eu aussi une personne proche qui avait été atteinte de cette maladie. C'est-à-dire que on perd tous les repères aussi affectifs, relationnels, ouais, sociaux, et c'est pas que le malade d'Alzheimer qui souffre, c'est l'entourage
aussi.
C'est
super pour l'entourage.
La famille, ouais.
Et moi je me posais la question, et j'ai demandé donc à des médecins, je me disais, mais est-ce que parce qu'on voit souvent des gens avec Alzheimer avec un grand sourire, qui sont enchantés de tout, ils redécouvrent des trucs tous les jours.
Sont-ils conscients de la maladie, ça?
Et puis, est-ce qu'ils en souffrent? On vit Alzheimer avec sa personnalité. Quand on est angoissé, on le reste.
Quand ils oublient de manger, ils en souffrent quand ils oublient de s'occuper d'eux, quand ils oublient qui est leur mari, qui est leur enfant.
Il y a des gens qui sont émerveillés de se retrouver dans un endroit nouveau, et puis des gens qui sont angoissés de se retrouver dans un endroit nouveau, donc on le vit avec sa personnalité. Voilà.
Faut rappeler aussi que cette maladie, comme toute maladie d'ailleurs, mais celle-là en particulier, représente un coût vertigineux pour la société, parce que là aussi, pour l'aide, l'habillage, l'hygiène, la gestion du budget, ça coûte 14 milliards. 14 milliards d'euros par an pour l'aide autour de la maladie d'Alzheimer, 5 milliards et demi d'euros par an pour les coûts médicaux et paramédicaux. Ça représente
un coût social monstrueux.
Puis les charges pour la famille et ainsi de suite. Donc ça veut dire que le don que l'on pourrait faire pour lutter contre la maladie d'Alzheimer représenterait aussi une économie dingue à toute la société, à la sécurité sociale, à toutes les charges qu'elle implique. Ouais.
Absolument. En plus, c'est une maladie, on va dire, tant mieux ou tant pis, j'en sais rien, qui dure longtemps. Donc, ces coups-là, ils s'étalent sur un grand nombre d'années.
L'hygiène alimentaire. Là, ça, c'est un
truc. J'ai appris des trucs.
Ouais, c'est dingue. En fonction de ce qu'on mange.
Voilà, c'est ça. Il y a une liste d'aliments dits protecteurs et des aliments dits à éviter. Dans les aliments à éviter, par exemple, j'ai été assez étonnée de découvrir que le fromage, c'était moins d'une portion par semaine, par exemple.
C'est le lait de vache. C'est le laitage, le fromage, c'est le lait de vache.
On va en prendre moins d'une fois par semaine, c'est ça?
Oui, c'est ça, moins d'une portion par semaine.
Mais le lait de vache, de toute façon, c'est n'importe quoi. C'est surprotéiné, c'est mauvais pour la digestion. C'est fait pour qu'un petit veau devienne gros en 5 mois.
Mais le lait de brebis aussi, et puis en belle pas. Ça se digère mieux que le lait de vache.
Je
crois qu'il faut être prudent sur les.
Tous les producteurs de fromage qui nous écoutent.
Non, le produit laitier. Absolument, moi je suis chevalier de Saint-Nectaire et je suis très amusé. Je suis très embêté.
Mais en tout cas, ça fait partie des aliments riches en acides gras saturés. En fait, la viande rouge.
La viande rouge aussi à éviter. C'est plutôt.
Je suis aussi ami avec un éleveur de salaire. Je suis très embêté.
Non, mais en fait, on dit pas qu'il faut plus en manger.
Trop d'amis, en fait.
On dit pas qu'il faut plus en manger, mais il faut faire attention. Même chose pour tout ce qui est beurre et margarine. Donc là, en quantité assez réduite. Tout ce qui est aliments frits. Alors là, faut essayer d'oublier. Je pense tout ce qui est restauration rapide. Ça, je pense qu'on s'en doute un peu.
C'est le régime crétois que tu es en train de décrire.
Ça. Et le sucre à outrance, faut faire attention. En revanche, la caféine serait on va dire, une sorte d'aliment protecteur à petite dose.
Je crois bien que on a peut-être des pistes sur ces sur ces informations-là, mais on pense que c'est pas encore.
Mais en tout cas, en termes d'alimentation, c'est surtout du bon sens, je crois. C'est des légumes,
On vous en gêne par le.
Ah, je suis emmerdé parce que vraiment, quand on fait du Cantal frit.
Avec un cœur de viande.
Ouais, mais vous le faites pas tous les jours, Thierry Lhermitte.
Je crois que ce sont des pistes de recherche. Pour l'instant, je pense pas qu'il y a de certitude là-dessus, à ma connaissance. En tout cas.
Non, il y a pas de certitude sur le fait. D'abord, il faut se méfier des charlatans qui disent que, en fonction de ce que l'on mange, on va éviter de mourir ou on va soigner des maladies. Par contre, il est avéré que, en fonction de ce que l'on mange, on prépare ou pas le terrain du cholestérol, du diabète, du surpoids.
Bien sûr.
L'activité physique aide aussi contre Alzheimer, puisque.
Oui, absolument. Si on se goinfre, on ne peut plus avoir d'activité physique, mais bon, c'est difficile à prouver. Quoi.
Pour soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale, faites un don. Vous pouvez aller sur le site, d'ailleurs, frm.org, si vous voulez avoir des informations, évidemment. Envoyez un SMS. Alors, si vous envoyez le SMS Neuro, N-E-U-R-O, au 92-300, l'argent sera dédié à la lutte contre Alzheimer. Si le SMS vous envoyez tout simplement D-O-N, l'argent ira à la Fondation pour la Recherche Médicale, qui a aussi pour vertu de s'occuper de tous les maux et de toutes les maladies possibles et imaginables.
Et si vous tapez Nagui, ça va sur ton compte.
Non, c'est pas ça. Mais blague à part, la fondation a eu une idée et on espère qu'elle va pouvoir voir le jour.
Un pourcentage
comme on va faire le 25e anniversaire de Taratata et que l'argent du concert, c'est-à-dire à peu près 75 000 euros des places vendues, ira à la Fondation pour la Recherche Médicale pour la lutte contre le cancer. Pendant l'émission, on va mettre en place aussi ce système de 92-300 en tapant Taratata pour qu'il y ait aussi...
Comment ça s'écrit?
C'est ça.
Taratata.
On accepte des fautes d'orthographe. T'inquiète pas.
Et puis, il faut dire que toi, t'es aussi parrain.
Moins spécialisé Thierry Lhermitte.
Et comme tu le diras pas, comme il y a le concert de Taratata, il faut savoir que t'as offert à toutes tes équipes deux places pour assister au concert. Et comme l'argent va directement à la fondation...
Deux places, réduction.
Voilà. Deux places.
Dont la tienne, et j'ai donné les 30 euros à la Fondation pour l'argent légal pour que toi, tu n'aies pas les données, Daniel Morin.
C'est bien vu. C'est bien vu, Daniel.
On s'en radin.
Voici l'humeur de Guillermo.
La bande originale. Nagui.
C'est le seul que j'aime ici, moi.
Bonjour les amis.
Parce qu'il n'y a que 20 par semaine.
Salut.
Certains parmi vous le savent peut-être, mais je ne suis pas qu'un chroniqueur à l'élocution d'accidenté de la route. Je suis aussi, et peut-être avant tout, un stand-upper mal conseillé artistiquement, ce qui fera dire à mes bien-aimés collègues, merde. Faut absolument que je vienne voir ton spectacle.
Est-ce
qu'on peut traduire en langage du showbiz par le jour où tu seras en phase terminale, certificat médical faisant foi et que tu joueras la dernière représentation de ta life à 20 mètres autour de chez moi? Peut-être. Vraiment, je viendrai te voir si j'ai plus de wifi à la maison. Elle est belle la solidarité, vraiment. Elle est belle la solidarité. On serrait plus les coudes dans Love Story, quoi. Lohanna et Jean-Edouard, ils sont comme ça maintenant. Moi, je pourrais me faire agresser là par un des vieux du public. Il y a personne qui bougerait ici, vraiment. Non, c'est vrai, dans l'équipe, c'est vrai. Mais pourquoi je vous parle de ma souffrance? Ah oui, parce que le fait de jouer trois fois par semaine ici m'a obligé à louer un appartement à Paris. J'ai pensé acheter un moment, mais après calcul, j'ai réalisé qu'à Paris, j'avais de quoi m'offrir 11 cm carrés. Et à part loger Nagui, qu'est-ce qu'on veut faire dans 11 cm carrés? Trop bien, un sketch sur les loyers à Paris. Enfin, un humoriste qui a son propre univers. Dans 2 minutes, il va nous dire que ça pue dans le métro. Et puis, il va imiter Sarkozy. Tu m'étonnes qu'on va pas voir son spectacle à la con. Alors déjà, c'est pas un spectacle à la con. Le Figaro a dit que c'était amusant avec des moments de flottement. Et puis,
Et puis,
il n'y a pas de raison que je sois pas le, que je sois seul humoriste de province à pas avoir mon sketch sur les loyers à Paris. Merde, quoi. Enfin, je peux faire que des vannes sur la pédophilie, quand même. J'ai des copains curés, là. Je vois bien qu'ils commencent à m'éviter dans les réveillons. Putain, je suis en forme. Alors, ça soulage. En plus, l'humour immobilier en pleine présentation du plan logement. Dans mon nouvel appart, j'ai tellement peu de mètres carrés que je leur ai donné un prénom à tous. Bim! Ouais. J'ai signé mon bail hier matin avec le propriétaire. Vous retrouvez la vidéo sur YouPorn, rubrique de bondage, domination anale.
Mais bah
non, j'ai fait une pension de crémaillère. Je fais une pension de crémaillère. Vous êtes tous invités. Hein, Nagui, demain, Tom, vendredi, oui. Samedi.
Ouais, oui.
Parce
ouais.
que vous pouvez pas tous tenir en même temps. Ouais, voilà. Ah putain, c'est incroyable quoi. Vous en voulez d'autres?
Non.
Mais dis-nous quand même pourquoi t'as pas invité Daniel Morin dans ta pension de crémaillère imaginaire. On a qu'à dire que j'aime pas les gens malsains. Je vais pas me justifier. Voilà, je suis lancé. Ceci dit, je grossis le trait. Il est pas si petit l'appart que j'ai loué. Là, c'est parce que je le vois avec des yeux d'adulte. Mais si j'avais 2 ans et demi, je trouvais ça immense. Bim. Je suis un TGV, y a plus rien qui m'arrête. C'est vrai. À Bruxelles, avec le loyer que je paye ici, je rachète le siège du PS belge. Bouillard. On s'en fout. Puis à défaut d'être spacieux, cet appart, il est vachement fonctionnel. Y a un sol. C'est hyper pratique pour tenir debout. Oh, demandez à Mexico.
Je t'écoute, hein.
J'en ai un stock complet, sérieux, loué à Paris, ça me donne envie de crever dans un essai nucléaire, quoi. Franchement, je fais officiellement partie de la France qui se fait carotte, et vous avez un gouvernement de maraîchers, quoi. Réveillez-vous, les gars, c'est pas normal de vivre dans des cages à poules pour le prix d'une rhinoplastie, quoi. Si on m'avait dit, tu verras un jour, tu paieras 800 euros de loyer pour vivre dans 100 mètres carrés la rue de Rivoli, j'aurais dit, mais jamais de la vie, où je vais mettre ma tarte de ping-pong, quoi. Vraiment, ça me sidère, quoi. Propriétaire ou promoteur, c'est vraiment mon nouveau but dans la vie, mais voilà, en attendant, je suis obligé de jouer 3 fois par semaine pour subsister. Et là, vous dites, putain, merde, faut vraiment que j'aille le voir jouer un jour. Allez, bonne émission, les amis.
Mais c'est où, Guillermo?
Au Point Virgule.
Ah, bah oui, non.
La bande originale.
C'est quand et à quelle heure?
Bon, on s'en fout, c'est pas, c'est
mais
c'est
si, pas si,
c'est
si,
jeudi au samedi,
pas importe. 21h, c'est ça?
Voilà, absolument. 20h même, du jeudi au samedi.
C'est combien? Même,
voilà. Non, il faut venir à 21h.
Je t'invite tous, c'est au profit de l'association.
À 20h, le spectacle commence, mais c'est vraiment drôle à partir de 21h.
Parce que c'est un autre spectacle.
C'est ce qui est dit dans Figaro.
Si tu m'offres des places, j'arrive.
20h au Point Virgule, Guillermo Guiz. Il faut absolument qu'on y aille, les garçons.
Sinon, moi, j'habite à 20 mètres en plus. Mais avant, j'ai pas envie de venir.
Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous annonçait la venue de Thierry Lhermitte dans cette émission.
Oui, et quand je pense à vous, Thierry Lhermitte, je pense à ce rôle-ci.
J'ai besoin d'une équipe, Arthur. Un commando. Des gens réactifs, toujours en mouvement, 24 heures sur 24. Je vous confie ce qu'il y a de plus important. Le langage.
Bonne chance à toi.
Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, vous incarnez, on va dire, un personnage explicitement inspiré de l'ancien ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin, un premier rôle très important. Et alors, ce qui m'a étonné en lisant les interviews que vous avez données à cette époque-là, quand je vois votre investissement ici pour Alzheimer, pour cette fondation, quand je lisais l'interview, vous racontiez qu'en fait, vous ne sentez pas forcément responsable d'un film et que vous n'étiez pas forcément totalement... Le responsable, c'est le metteur en scène, en fait.
Bah oui, c'est le metteur en scène et le scénariste. Moi, je suis interprète, c'est tout, là.
Ouais. Mais c'est étonnant comme discours. Généralement, on dit voilà, j'étais à fond dans le rôle.
Ça n'empêche pas de bosser. Mais, ouais. Mais le chef d'orchestre et le compositeur, c'est pas moi. Je l'ai fait aussi qu'en étant scénariste, puis quand on écrivait nos trucs. Là, on était responsable de ce qu'on faisait. Là, interprète, c'est déjà pas mal. Hein,
ouais,
je veux
ouais.
dire, l'interprète dans un orchestre, c'est super.
Il peut tout planter aussi. L'interprète.
Oui, et puis non, enfin c'est une place super respectable, mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Et
vous sentez pas responsable à un moment même du résultat, quoi. Vous dites pas bon une forme d'angoisse, un peu
au
de pression.
Théâtre, au théâtre, on l'est vachement parce que c'est nous qui faisons le montage, on fait on fait les gros plans.
Ouais.
Au cinéma, le metteur en scène, quand il a fini de tourner, qu'il a obtenu ce qu'il voulait ou à peu près, il fait le montage. C'est lui qui raconte l'histoire pour vraiment.
Alors là, je suis pas d'accord avec vous. Dedans. C'est qu'au théâtre, c'est pas vous qui êtes le réalisateur, c'est le public, c'est le spectateur. C'est lui qui décide de faire un gros plan ou de regarder un tel ou un tel.
Ah
non,
oui,
c'est nous. Non, c'est les acteurs qui se renvoient la balle et qui orientent l'orientation du public.
Mais si j'ai envie de regarder celui qui écoute et pas celui qui parle.
Bah, celui qui est intéressant, c'est celui-là. C'est les acteurs. On est super conscient sur scène de prendre un temps et d'avoir l'attention qui arrive vers vous ou pas. Non.
Je pensais aussi comme Nagui, que c'était un spectateur qui faisait son.
C'est ça que j'ai mis au théâtre.
Qui faisait sa mise en scène, en fait.
On manipule un peu le spectateur.
Si j'ai envie de faire un fondu au noir, je ferme ferme doucement les yeux. Ouais,
c'est les acteurs en sont encore responsables.
Donc si vous voyez Nagui dormir au théâtre, non, c'est un fondu au noir. Ça n'a rien à voir.
Je réalise
pas du tout.
Allons, je réalise.
Et donc dans l'implique, alors au cinéma, pour le coup, voilà, vous abordez les choses vraiment totalement différemment.
Ben, honnêtement, moi, j'avais quand j'ai démarré pendant un certain nombre d'années, j'avais la prétention de croire que c'était moi qui faisais la musique. Mais ouais. Non, à un moment, on se rend compte que c'est le metteur en scène. Puis, et que c'est super de se laisser aller dans les mains du metteur en scène, puisque comme ça, pas de problème, moins comme ça, pas de problème. Bon, un temps là, ok, ouais, super. C'est très...
C'est plus reposant.
Non, c'est pas plus reposant. Mais avant, je crois que c'était à la fois de la prétention et puis de l'ignorance, de penser que... Voilà, un exemple qui est super bête, mais quand on est jeune acteur, on dit, tiens, je vais faire ce geste-là avec mes mains, ouais. Et puis ça va être très signifiant, sauf qu'on n'y en voit que votre tête. Puis on se dit après, j'aurais dû savoir.
Oui, mais ça vous a aidé d'avoir ce mouvement des mains dans le rôle.
Oui, d'accord, même mais quand on se dit, ça va être très signifiant, je vais être impassible, mais en même temps, je vais faire ça.
Je vais taper mes doigts
sur la table, mais on ne voit pas les doigts. Ou alors le metteur en scène ne va pas monter le moment où on fait ça. Voilà, donc non, on est au service du metteur en scène, mais vraiment comme un musicien dans un orchestre.
C'est
voilà.
La surpuissance de l'acteur, on oublie quoi.
Bah ouais, c'est le metteur. Non, franchement, c'est le metteur en scène qui est tout puissant.
Mais ça amène à une forme de posture d'humilité tout d'un coup, qu'on entend assez peu en fait. Je trouve que votre discours est assez.
Il y a des interprètes très prétentieux, ça n'empêche pas de la prétention.
Ah ben on en reçoit ici beaucoup. Demain il y a Huster.
Moi je me demandais. Ils seront ensemble au théâtre.
Je vous écoute très souvent et je me dis, mais comment vous faites pour entendre les mêmes âneries tous les jours? Mais c'est dingue.
C'est pas que des âneries.
Tout le monde dit la même chose.
Mais Nagui aussi, forcément, donc il répond pas.
Pas forcément.
Mais sur quoi ?
La preuve sur la réalisation au théâtre, c'est pas la même chose qu'il dit.
Non, c'est vrai. Ah non, j'ai adoré faire ce film. Vraiment, une équipe extraordinaire. Parce qu'en même temps, le metteur en scène nous a laissé nous exprimer. Et
mais est-ce que c'est
temps,
pas vrai ? C'est pas vrai parfois ?
Est-ce que vous êtes rafraîchissant ?
Si, c'est vrai, mais je me faisais cette réflexion. On m'en dit tous la même chose. C'est normal, on dit la même chose.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, vous, le tournage a été atroce, elle, je peux pas la saquer, et elle joue comme ses pieds ?
Non. Je le dirai pas.
Non, on ne va pas le dire.
Longtemps après.
Est-ce que la contrainte, vous préférez la contrainte du cinéma qui est d'attendre peut-être des heures assises sur une chaise, que la lumière soit prête, que tout soit précis, ouais. Techniquement prêt, et une longue attente pour tourner une minute, ouais. Voire deux minutes
longue question.
Pour le cinéma, ou à l'inverse, le théâtre avec l'obligation, l'astreinte d'être
le théâtre,
tous les jours
épuisant,
à la même heure.
C'est épuisant, il faut se donner à fond tous les soirs, machin, ça en finit pas. Et le cinéma, c'est quand même plaisant, parce qu'on peut discuter, dire des conneries avec ses partenaires, faire des sudokus, enfin, ouais, c'est formidable. L'activité...
La vraie vie, quoi.
Ouais. Non, j'ai les deux en désavantage, mais c'est quand même épuisant, le théâtre. Ouais.
Donc, vous préférez le cinéma,
clairement. Ça m'a tué.
Et pourtant, vous y retournez.
Au cinéma?
Non, au théâtre.
Au théâtre,
Inconnu
à cette adresse, c'est deux jours. Non, mais ça
c'est deux représentations dans le cadre du festival du théâtre français.
Nous allons reparler évidemment de la Fondation pour la Recherche Médicale, dont vous êtes le parrain, aux côtés de Marina Carrère-Dancos également, qui fête ses 70 ans cette année, cette Fondation pour la Recherche Médicale.
Oui,
elle l'a fait pas.
Mais franchement, vous laissez.
Pourtant, c'est celle qui travaille avec Simès. Voilà, elle doit être épuisée.
Lui, il est fatigué. Il a pris, il a reçu. C'est l'alcool et tout ce qui picole. Il se met dans des états.
Pourtant, la cocaïne, ça requinque normalement.
Ouais, mais lui, il prend pas de la bonne ligne.
Michel, il sait s'amuser.
Non, il sait pas s'amuser.
On l'appelle le tapir quand même.
Il sait pas s'amuser.
Non, mais il en sait quelque chose.
Le pauvre Michel Simès. Enfin bref.
Il nous manque.
On est de tout cœur.
Il nous manque. Trop vite parti.
On va.
Bon, au fond.
À RTL. Voici la bande originale de Thierry Lhermitte qui écoutait en 1975.
Pourquoi ?
Parce qu'il aime la mer, le soleil et le sexe.
Le soleil.
C'est quoi la référence ?
Au zénith.
C'était le générique des Bronzés avant d'être une chanson de Gainsbourg. C'est une chanson de Gainsbourg qui a servi de générique.
Non, c'est une chanson de Gainsbourg qui a servi de générique qu'on connaissait pas. Bon, moi, Splendide, on la connaissait pas. C'est le producteur Yves Rousserroir qui nous a suggéré cette chanson qui colle bien. Il faut bien le dire.
Clairement, oui. Ouais, voilà, non, mais là, il fallait l'accord de Gainsbourg, j'imagine, pour que
oui,
ce
oui,
soit
bah,
un générique.
Oui, l'accord financier. Ouais, bien sûr.
Et à cette époque-là, c'est la création du Splendide avec une première pièce, je crois, c'est Je vais craquer.
Oui, oui, je vais craquer. Et puis après, l'amour coquillage et crustacé qui a donné les Bronzés. Voilà. Donc, j'ai dit ça parce que je n'avais pas d'idée.
Mais c'est aussi la période où Thierry Lhermitte, vous commencez au cinéma et vous avez un rôle dans Les Valseuses, par exemple.
Ah, c'est tout premier, carrément.
Ouais, ouais, premier rôle. Que, c'est fou, ça.
Je ne me souviens plus, moi. Non. C'est quoi dans Les Valseuses?
Vous faites 10 le portier.
Secondes,
ouais. 10 secondes.
Oui, 10 secondes. Mais, Bertrand Blier qui démarrait, il avait des castings directeurs, je ne sais plus qui c'était, mais formidable. Et du coup, tous les jeunes acteurs sont allés faire le casting des Valseuses, qui c'était Depardieu et Devers. Mais du coup, comme il avait vu plein de jeunes acteurs, a eu un petit rôle.
Oui, Isabelle Huppert aussi, un petit rôle.
Ah non, elle a un rôle important, Isabelle Huppert.
C'est Mimi.
Elle est dans le train. Non, mais.
Ah oui, dans le train. Ah oui,
c'est 10 secondes. On parle de 10 secondes.
C'est une scène choquante, d'accord.
Junio, il est dedans, c'est 10 secondes, voilà.
Donc ça veut dire que si on revoit.
C'est Brigitte Fossé.
C'est Brigitte Fossé dans le train.
Ah bon?
Avec la poitrine. La poitrine.
Ouais, c'est ça, avec la poitrine, c'est
Fossé. C'est Fossé.
Elle donnait pour Alzheimer, les gars. Donnez pour Alzheimer. Neuro, allez-y, les gars. C'est une urgence.
Elle est dedans aussi. Elle pique-nique avec ses parents.
D'accord.
Mais il faut. Ouais. Là, vous avez raison, c'est que ça donne envie de revoir le film en se disant il y a peut-être plein de têtes comme ça qu'on n'avait pas remarqué.
C'est le cas. Hein.
Ah non, mais ouais. Vous, j'avais pas vu.
Ouais. Ouais, il faut mettre sur pause.
Très bien.
Et là, on se dit quand même pour un premier film, il y a une forme de lien avec le destin. On sait qu'on entre dans l'histoire du cinéma déjà. Ça donne une motivation.
Avec une petite semi-figuration,
bah
ouais. Non.
Bah quand même. On se dit pas non, ça.
On sent pas l'histoire.
D'autant plus que non, mais que Bertrand Blier, c'est son premier film. Ouais. Il était connu pour à cause du roman, mais c'est son premier film.
Mais le succès.
Était un peu. Après, le succès, non, franchement, faudrait être.
Non, on peut se dire que c'est un signe du destin.
Pour se dire, c'est dire je suis dans un succès, je suis monstrueux avec 10 ans de.
Francis Huster demain.
Faut habiter pour sentir ça. Non,
en 1981, vous écoutiez Julien Clerc.
Tous mes souvenirs s'enfument, autant de bougies qui s'allument. Je soufflerai, j'arrêterai plus tard.
Quand vous écoutez Julien Clerc, vous vous revoyez, je sais pas, dans.
Ben, Julien Clerc, il a marqué c'est des chansons que tout le monde connaît, elles ont marqué ma jeunesse. Et j'ai
c'est
eu 30 ans.
La bande originale de votre vie, quoi,
ouais,
en fait.
Ça a collé. Il l'a sorti. Je l'ai mis dans pour l'année où j'ai eu 30 ans, mais lui, c'était quelques années avant. Pas beaucoup, mais. C'est une chanson magnifique. Je ne sais plus qui c'est, si c'est Vallée ou Rodagil qui a écrit celle-là, mais c'est. Ou Dabadi, je trouve.
Peut-être Dabadi.
Non, il me semble que c'est Maurice Vallée. Mais on va vérifier ça.
Enfin, elles sont magnifiques, puis celle-là m'a marqué. Bon, 30 ans.
La place de la musique dans votre vie, vous écoutez de la musique tous les jours, vous avez un goût musical particulier.
Très éclectique, non, là, ça j'écoute classique, du folk, de la variété. J'aime bien les paroles aussi, donc les gens qui écrivent bien. Ouais.
Mais vous montez dans votre voiture, vous mettez tout de suite de la musique ou pas forcément?
Si, je mets la radio, ouais. Du coup, je vous écoute souvent.
Désolé.
Et c'est là que vous vous rendez compte. Et donc en 81.
Il faudra écouter plus de musique.
Voilà. C'est l'année prochaine, si tout va bien. C'est le tournage de ce film. Et ouais. Alors là, j'ose pas poser la question, en fait. Ouais. Mais vous racontez pour le coup que vous avez cru qu'on allait vous virer du tournage.
Ah oui, oui.
Et pourquoi?
Qu'est-ce que vous avez
fait? Ça se passait. Non, écoute,
je
me sentais mal pour un certain nombre de raisons, je ne vous expliquerai pas. Et j'étais un peu en retrait, je ne savais pas comment gérer ça. Et j'étais pas bien et je me suis dit, oh là, mais c'est une horreur ce qui se passe. Et un matin, le producteur m'appelle et sur le moment, j'ai pas le courage. Je lui dis, non, je te rappelle. Je raccroche et je me dis, bon, bah, ok, je vais virer. Voilà. Il m'appelle pour me dire que je suis viré. Je ferai du théâtre, hein, je continuerai le théâtre. Ça, c'est la vie. Hein,
vous avez déjà été viré?
Non. Non, c'est rare, heureusement, ce métier. Et du coup, je prends mon courage à deux mains, je le rappelle après, et il est super, il me dit, mais Thierry, attends, tu peux pas lâcher comme ça, faut y aller, machin, etc. Et je suis reparti le lundi, regonflé, etc. Mais vraiment, pendant une heure, avant que je le rappelle, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça.
N'abandonnez jamais demain, Francis Husser est notre invité. Pas. C'est ça, absolument, il faut se battre. Tout à l'heure, vous avez fait une petite pique, une vanne, en tout cas, sur Gainsbourg, vous avez demandé autorisation. Ouais. Oui, ça s'est négocié, on a payé.
Oui, bien sûr. Maintenant, mais c'est payé pas que lui, c'est normal d'acheter les droits. Oui,
sauf que ça n'a pas été le cas pour Étoile des Neiges que vous vouliez mettre dans les bons fonds du ski et où là.
C'était trop cher.
Donc, vous voyez comme quoi les droits sont pas évidents.
Ouais. Non, c'était très cher pour chanter Étoile des Neiges. Je sais plus compter.
C'est une belle chanson en même temps. Hein? C'est une belle chanson en même temps, ça.
Mais magnifique.
Ça vaut le pognon, hein.
C'était un chef-d'œuvre de la musique. Du coup, le compositeur a composé un truc un peu proche.
Rendons à Maxime Forestier la plume de J'ai eu 30 ans. C'est lui qui a signé les paroles de Julien Clerc. En 2011, vous écoutiez un autre grand monsieur de la chanson.
Abderrahman, Martin, David.
Sublime chanson.
Et si le ciel était vide?
Chanson qu'il avait chantée ici à la Maison de la Radio quand on avait malheureusement fait l'émission Je suis Charlie après les attentats. On avait ouvert avec cette chanson dont les paroles,
c'est ça.
Et si en plus il n'y a personne au ciel?
Si c'était juste le plaisir de zigouiller.
C'est ça.
Bah celle-là, on peut pas. Moi, j'y pense. D'abord, c'est une chanson sublime qui était magnifique. Qui m'a fait pleurer quand je l'ai écoutée la première fois. Et puis ensuite, malheureusement, on a eu à y penser tellement de fois. Donc j'ai mis cette chanson sans rapport avec la date, parce que quand on demande une chanson, il faut toujours mettre une chanson d'Alain Souchon.
C'est une bonne règle. Et en 2011, vous incarnez...
Pendant plusieurs années,
jusqu'en 2015, je crois, un médecin, c'est Doc Martin.
Oui.
Dans une série diffusée sur TF1.
Énorme succès.
Puis là, finalement, il y a un lien avec votre rapport à la science. C'est quoi? C'est vous qui avez été à l'initiative?
Non, pas du tout. Non. On est venu me chercher. C'est l'adaptation d'une série anglaise qui est excellente, qui s'appelle Doc Martin aussi. Et pas Doc Martin. Pas Doc Martin, parce qu'en plus, Martin, ça s'écrit avec deux E.
Les chaussures, oui.
Les chaussures. Mmh. Mais Doc Martin, donc, et il y a eu. Oui, 4 saisons, dont une très bonne première saison.
Vous auriez aimé être docteur?
Quand j'avais l'âge de faire ces études, non, mais rétrospectivement, oui. Ouais.
C'est quoi? C'est l'un des regrets de votre vie?
Non, pas d'avoir pu être chercheur. Je ne me plains pas de ma vie, mais on me posait la question l'autre jour et je me disais, mais comment ça se fait? Franchement, quand j'étais au lycée, tout m'emmerdait, rien ne s'imprimait. Mais à part les maths, parce que j'étais bon, mais le reste, mais rien ne s'imprimait du tout. J'ai tout m'emmerdé. J'ai eu le bac de S, mais de justesse, machin. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, tout m'intéresse. J'adore l'histoire, j'adore la géographie, j'adore les sciences de la nature, j'adore la littérature, machin. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils faisaient qu'à cette époque-là? Et j'ai pas de réponse.
Ça sera intéressant de savoir pourquoi.
J'en sais rien, mais rien du tout. Et je ne suis pas le seul. Parce que tout était facile.
Vous étiez trop facile surtout.
Non, ça s'imprimait pas. Je vous jure. Aujourd'hui, honnêtement, je fais des visites de laboratoire, je lis des bouquins, je peux en parler. Ça rentre. À l'époque, mais rien, ça ne s'imprimait pas. Je me débrouillais. Donc j'ai eu mon bac, mais ça. Je ne sais pas pourquoi.
C'est pas mal.
D'autres préoccupations qui passaient en premier, mais j'en sais rien. Mais c'est, je me dis, le jour où on arrivera à trouver comment intéresser, l'enseignement sera plus facile. En tout cas, moi, ce n'est pas le cas.
En tout cas, il y en a un qui a travaillé, lui, qui a fait des études, lui, qui est diplômé, lui. Heureusement qu'il y en a un autour de sa table, c'est Xavier Jeudemaître. Merci de venir à ce micro. Vous êtes généticien et cardiologue, responsable d'une équipe de recherche au PARC, et on le prononce comme ça, Paris...
Ouais. Paris Cardiovascular Center, oui.
Voilà, Paris, ah oui, Pardi. Le R, c'est quoi alors?
Pour Paris.
Ah, je crois que c'était recherche.
Oui, aussi.
D'accord, okay, oh, d'accord.
Comme tu veux, on comme s'adapte. Tu veux. Qu'est-ce qui te fait plaisir, en fait?
Très bien.
Recherche ou Paris?
Enfin, du coup, recherche, c'est bien aussi. Vous êtes responsable du département de génétique de l'hôpital européen Georges Pompidou. Vous êtes responsable du centre de référence des maladies vasculaires rares. Quand vous entendez parler de la Fondation pour la recherche médicale, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Est-ce que c'est l'argent qu'elle donne? Est-ce que c'est les projets qu'elle initie? Est-ce que c'est la communication qu'elle fait auprès du grand public?
Ben, d'abord, merci beaucoup de m'inviter. Puis, bizarrement,
on a hésité.
La première chose qui me vient, pour y avoir maintenant travaillé depuis bénévolement depuis près d'une dizaine d'années, c'est l'équipe de la Fondation pour la recherche médicale. C'est une équipe extrêmement chaleureuse, extrêmement pointée vers la recherche, qui donne beaucoup de soi. Ouais. Et toutes les actions qui sont dans cette fondation sont, entre autres, menées par une équipe administrative extrêmement bien menée.
Vous avez raison de le préciser. Puis moi, j'ai une pensée émue pour Frédéric Camus, qui exactement faisait partie de la Fondation pour la recherche médicale et qui faisait énormément et qui et comme toutes ces personnes dévouées, intelligentes et combatives, ne faisait part d'aucun de ses problèmes personnels et faisait tout pour aider les autres. Voilà, une énorme pensée pour elle. La Fondation pour la recherche médicale, on disait tout à l'heure qu'elle soutenait plus de 750 recherches. On a l'impression qu'il y a plus de mots que de chercheurs et qu'il y a trop de pistes et qu'on ne peut pas toutes les suivre.
Oui, il faut comprendre en fait le système dans lequel on est en termes de recherche médicale. Il y a énormément d'équipes, d'étudiants, de bourses qui peuvent être données, éventuellement d'impulsions sur telle ou telle chose, ce qui fait que la Fondation va pouvoir aider soit un étudiant en thèse sur 35 000 euros par an, par exemple, soit une équipe de recherche sur 4 ans à un niveau de 400 000 euros, en fonction des projets qui sont, comme ça a été dit tout à l'heure, sélectionnés avec un conseil scientifique lui-même bénévole, extrêmement talentueux le plus souvent. Donc, ça explique la diversité, en fait, des bourses ou des allocations qui sont données. 35 millions, 45 millions, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, et un gros travail de sélection, un gros travail d'évaluation qui est fait de façon systématique là-dessus.
On parle d'Alzheimer, c'est l'une des causes, parce qu'il y a souvent des thèmes comme ça qui sont pris ouais. Par année, parce qu'il faut mettre le focus sur un problème, et puis j'imagine que l'année prochaine, la Fondation pour la recherche médicale communiquera sur une autre maladie. Là, en l'occurrence sur Alzheimer, on disait tout à l'heure, Thierry Lhermitte nous expliquait qu'il y avait quelques pistes, évidemment qu'on ne savait pas encore exactement ce qui se passait, des pistes soit sur les protéines prion ou auto, soit sur l'hygiène de vie aussi, et il y a 4 projets que la Fondation va soutenir contre
oui,
Alzheimer.
Entre autres 4 projets, et j'espère qu'avec les dons qui vont être faits à travers le lancement de SMS 9230 Neuro,
N-E-U-R-O,
on pourra en développer encore plus. C'est absolument indispensable. Thierry a vu un des laboratoires de Nathalie Cartier au CEA qui travaille sur tout l'aspect immunologique de la maladie d'Alzheimer, où il y a en fait
l'inflammation néfaste.
Absolument. Et ça, c'est une piste tout à fait intéressante. Vous savez que l'immunothérapie se développe aussi bien dans le cancer que dans des maladies cardiovasculaires, mais aussi dans les maladies neurologiques. Et on voit, il y a une espèce de yin-yang avec des aspects positifs de l'inflammation, parfois des aspects négatifs quand c'est trop élevé. Et typiquement, ce genre de recherche est prêt d'aboutir avec un premier essai qui va être fait en termes de faisabilité, de non-toxicité. Voilà des pistes intéressantes qu'il faut absolument soutenir parce que ce qu'il faut comprendre aussi pour le public, c'est que la recherche biomédicale, ça coûte très cher.
Toute la recherche, le problème génétique ouais, de la maladie d'Alzheimer, est-ce que lorsqu'il y a un membre de la famille qui est atteint de cette maladie, est-ce que le reste de la famille, ses descendants, doivent s'inquiéter en disant qu'ils ont un terrain propice à cette maladie?
Alors, je suis pas un spécialiste de la génétique de l'Alzheimer, mais très schématiquement, il y a des Alzheimer précoces, 50 ans, et là vraiment il y a des susceptibilités familiales génétiques fortes et il y a un certain nombre de gènes qui ont été identifiés, la Parkinson ou d'autres partenaires de ces gènes. Et puis plus on avance en âge, 70, 80 et au-delà, plus la part génétique de cela est de moins en moins forte, plus elle est complexe. On a tous, vous, moi, des variations génétiques multiples et une combinaison qui font qu'on est un peu plus favorable ou défavorable à telle ou telle maladie. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur l'alimentation pose le problème, en fait, dans ce qu'on étiquetait la démence vasculaire par rapport à l'Alzheimer. Il y a tout un facteur de risque vasculaire, de nombreux facteurs de risque qui peuvent aboutir, en fait, en termes de symptômes.
Et là, c'est lié à l'alimentation.
Absolument. Ouais. Et c'est beaucoup plus fréquent, enfin, c'était beaucoup plus fréquent que l'Alzheimer lui-même qui...
D'où l'intérêt de l'huile d'olive plutôt que le beurre, d'où l'intérêt du poisson plutôt que la viande
rouge. Oui, mais
rouge.
J'aime bien le cantal aussi, hein. Il n'y a pas de souci.
Non, mais il faut quand même préciser, et Thierry l'a dit tout à l'heure, c'est évidemment garder le plaisir et ne pas se priver, mais éviter les excès. C'est toujours la même phrase qui est dite régulièrement. Oui. Tout peut être bon, mais pas à l'excès.
Oui, mais enfin, en même temps, on ne vit pas dans une cloche, on vit avec du plaisir, on vit avec du plaisir en vous écoutant, et on peut vivre avec du plaisir aussi.
Ben là, on vit avec une cloche, hein, puisque.
Si on pouvait avoir du plaisir, nous aussi.
Et pourquoi il n'y a pas plus... Ah pardon, vas-y, je t'en prie.
La solitude, ça peut jouer sur le fait d'avoir Alzheimer ou pas?
Sur les symptômes, plus que sur le fait d'avoir Alzheimer. En fait, comme l'a dit tout à l'heure, le fait de travailler votre cerveau, et je pense qu'en reparlant de Thierry, le fait... Il était peut-être préoccupé à l'adolescence par d'autres choses que les maths, l'histoire, la géographie, mais que probablement son métier par la mémorisation nécessaire des textes, en particulier au théâtre, a favorisé peut-être aussi l'appétence vers d'autres choses et l'imprégnation plus facile. Donc la solitude, c'est évidemment un facteur de dépression, c'est évidemment un facteur de non-interaction avec les autres, et dans la symptomatologie, oui, effectivement, ça peut... paraître plus fréquent, mais je ne pense pas que ce soit du tout quelque chose qui soit un déclencheur de l'Alzheimer. Simplement, vous avez des signes éventuellement.
Ça peut accélérer de ne plus avoir de vie sociale.
Absolument.
Voilà, de ne plus avoir de vie sociale. Tout à l'heure, on disait que la lecture était une activité cérébrale importante.
Ouais. Il faut savoir se stimuler en permanence. Vous le faites et on vous écoute pour ça, mais en même temps la lecture, le cinéma,
l'activité physique
absolument indispensable.
Tout ça aide.
Un point encore qui rend le soin de la maladie d'Alzheimer difficile, c'est que quand les symptômes arrivent, la maladie est déjà installée depuis longtemps. Ça rend cette maladie difficile à étudier parce que on peut pas la détecter au moment où elle commence à se développer.
Est-ce qu'il y a un âge moyen, pardon?
Une cinquantaine d'années, vous disiez
que c'est précoce. Non, en général, c'est au-delà de 70 ans quand même. Hein.
D'accord.
Lorsque tout à l'heure on disait que toutes les 3 minutes, un nouveau cas d'Alzheimer était découvert, ça veut dire qu'il faut dépister, le repérer. Est-ce qu'on doit commencer à partir de 50, 60 ans? Est-ce qu'il y a des tests pour savoir si oui ou non on a un terrain propice à l'Alzheimer?
Donc, il y a des consultations. Vous savez qu'il y a un plan Alzheimer il y a plusieurs années. Donc il y a des consultations qui ont été organisées dans les hôpitaux, consultations mémoire, consultations aussi d'orientation vers l'Alzheimer, pour faire en sorte qu'effectivement, sur des petits signes que l'on peut tous avoir, le plus souvent dire « non, c'est pas ça », ou bien au contraire dépister relativement tôt. La problématique, c'est que, comme il a été dit, on n'a pas pour l'instant de traitement vrai, mais si ce n'est qu'un accompagnement, et l'accompagnement est parfois dans des pathologies, même quand on ne connaît pas exactement un traitement curatif, est absolument majeur dans l'évolution de la maladie.
La théorie du professeur Beaulieu sur la protéine tau?
Écoutez, elle existe, la théorie, et la protéine aussi. On voit, il y a des... incontestablement des travaux contradictoires là-dessus, de l'agrégation de la protéine, l'agrégation de la substance bêta-amyloïde.
On va juste préciser que cette protéine est naturellement sécrétée par l'être humain, et qu'il semblerait que l'absence de cette protéine, que l'on pourrait ingurgiter, avaler ou rééquilibrer, cette absence-là aide la maladie d'Alzheimer. Enfin,
il semblerait que vous n'êtes pas d'accord.
C'est une des pistes.
Voilà. Je crois que Daniel a bien résumé l'affaire.
Non, mais c'est le problème là-dedans, c'est que comment faire quand il y a différentes pistes, justement. Alors, j'ai cité ce professeur qui visiblement n'a pas vos faveurs, mais quand des chercheurs viennent présenter à la Fondation pour la Recherche Médicale des projets, il doit y avoir des tensions entre chercheurs autour de la table en disant mais moi j'y crois, mais moi j'y crois pas, on y va pas. Et comment être sûr de ne pas passer à côté de quelqu'un qui aurait une vraie bonne piste?
C'est passionnant ce que vous dites là, parce qu'effectivement c'est le travail du conseil scientifique avec une multitude, il y a 30 personnes à peu près, qui sont des professeurs, des chercheurs de toute la France et qui effectivement discutent chacun des projets et sur laquelle il y a des paris qui sont faits, des paris scientifiques sur la qualité du cherche, de la recherche proposée, la qualité de l'équipe qui le maintient. Et puis on fait des paris sur un an, deux ans, trois ans, et puis on voit ce que ça donne, il y a une évaluation de cela.
Et on échange d'informations au niveau mondial aussi, j'imagine, entre les chercheurs de tous les, tous les pays.
C'est la recherche est maintenant complètement internationale et on ne peut pas faire quelque chose dans son pays.
Et c'est là où on voit le travail de la Fondation pour la recherche médicale, c'est le nombre de publications en fait dans le monde grâce aux avancées et aux projets que vous avez soutenus.
Et quelles sont les attentes par rapport au pouvoir public ?
Le pouvoir public, ils font ce qu'ils peuvent déjà, en fonction des financements qu'ils ont. Mm-hmm. On est vraiment une fondation qui, des financements, comme il a été dit, tout à fait privés, de dons, de legs, et qui sont essentiels. Les pouvoirs publics, ils vont faire en sorte de structurer les équipes de recherche. Donc l'INSERM, l'ANR, par des projets, vont pouvoir ici financer des chercheurs temps plein, des structures de recherche, des équipements. La fondation amène le plus, comme il a dit, 30% souvent d'activité, des fonds disponibles, par donner un coup de boost sur une recherche particulière, donner un CDD ici, donner un CDI ici, parfois donner justement une équipe qui va pouvoir grossir, une équipe en émergence qui pendant un an, deux ans va bénéficier de 100 000 ou 200 000 euros et qui va pouvoir développer sa propre recherche.
Ce qui est formidable,
on ne se substitue pas au pouvoir public.
Mais en termes de communication, on peut peut-être s'attendre que les pouvoirs publics parlent davantage de la maladie, de ce que vous avez expliqué tout à l'heure, à savoir avoir une activité physique, intellectuelle, un peu plus dans le détail, parler un peu de l'alimentation et donc faire en sorte qu'il y ait une forme de synergie, parce qu'au fond, tout le monde est gagnant, in fine, pour que cette maladie soit complètement éradiquée.
Oui, je pense que le ministère de la Santé fait au mieux, je pense, donc je ne vais pas le critiquer là-dessus. Nous sommes tous issus du secteur public. Mm-hmm. Je suis payé par le public, donc je ne vais pas le critiquer. Derrière,
On pourrait le critiquer si vous estimez qu'il n'est pas à la hauteur.
Non. Le produit intérieur brut d'un pays, ce qu'il donne pour la santé et derrière son efficacité, c'est déjà énorme en France et je pense que derrière toute activité supplémentaire de dons qui permettent justement de donner vraiment une impulsion forte pour tel ou tel type de maladie est vraiment nécessaire.
Enfin, là, il a raison quand on voit le coût que représente la maladie d'Alzheimer pour la société française, on peut se dire que ça mériterait d'investir pour
Il y a eu un plan Alzheimer qui a été fait avec une fondation. Il y a
ça représente des milliards de coûts, c'est juste dingue.
Absolument.
Est-ce qu'il y a des laboratoires un peu vautours qui sont aux aguets?
Des laboratoires vautours ou des autours, j'ai pas bien
compris. Non, vautours, qui sont autour justement.
Déjà, c'est un pléonasme, laboratoire et pharmaceutique et vautour, mais en l'occurrence, qui ferait, tu veux dire, de l'argent sur.
Non, mais qui serait là, qui serait très attentif aux travaux qui sont faits.
C'est normal, c'est un marché monstrueux aussi.
Oui, c'est pour ça, c'est colossal.
Dans quelques années, le laboratoire qui aura un premier.
Premier brevet.
Premier brevet, ou voilà, un premier brevet, c'est sûr.
On peut être paranoïaque en se disant aussi que les laboratoires.
C'est eux qui payent la recherche après, les recherches cliniques.
Mais les laboratoires là aussi vendent des médicaments, et c'est ça aussi, ces dépenses dans les 15 milliards de dépenses. Il y a des dépenses pour des médicaments qui font les recettes des laboratoires. C'est peut-être pas leur intérêt aussi qu'on trouve une solution, puisque là ils font.
Ah bah si,
ben
si.
Si, parce qu'il faut commercialiser le médecin.
Les laboratoires, ils vont vendre des traitements après.
Ah, le laboratoire va vendre le traitement, il y en a plein qui vendent plein d'autres trucs.
Si on trouvait la pilule miracle, ça n'arrivera pas, mais il y aura donc des traitements. Et si des laboratoires ont le brevet de ces traitements et fabriquent ces trucs, tant mieux pour nous.
Si je peux me permettre, chacun a sa place. Oui. Il y a des instituts de recherche publics, parfois éventuellement des partenaires privés. Et derrière, la partie fondamentale, souvent, c'est du public. Et puis quand ça commence à éclore avec éventuellement une translation vers un médicament, alors là, le laboratoire va investir. Parce qu'effectivement, comme il vient d'être dit, on va pouvoir développer une recherche médicamenteuse, souvent très coûteuse, et négocier ensuite avec les pouvoirs publics le prix du médicament. Donc c'est un système extrêmement complexe, et on a besoin des laboratoires privés, bien sûr, c'est pas simplement des laboratoires vautours.
T'as compris, moi?
Il peut y en avoir.
Ou pas. Merci mille fois, en tout cas, d'être venu, Xavier, jeune maître. Et bravo pour ce que vous faites. Et mes amitiés à tous les spécialistes de la Fondation pour la Recherche Médicale, pour ce qu'ils font.
Merci beaucoup. Merci pour la FRM.
92-300, on le rappelle, N-E-U-R-O, pour donner 10 euros via votre note téléphonique. au pasteur. L'anagramme, ça ferait Pastureau.
Ah, c'est vrai.
Bah, ouais,
absolument. Bonjour Nagui, bonjour.
Bonjour,
à tous.
Bonjour Tanguy. Aujourd'hui, vous allez nous parler du président Emmanuel Macron.
Oui, Emmanuel Macron, notre passion française, notre frisson collectif, notre fierté qu'on exhibe comme une cicatrice quand on veut séduire une fille qui a fait Koh-Lanta, était ces trois derniers jours à New York. Il a défié Trump, déclaré que le rêve américain, c'était la France, et il a fait des bisous à Brigitte sur Times Square. Il a fait du Macron, quoi. C'était grand.
Parfait, ça sera à 12h10. Alors, petite précision, puisqu'il y a un mouvement de grève aujourd'hui, il n'y aura pas de... Oui, ben oui. Il n'y aura pas d'infos à midi. Il y a donc un programme de grève pendant 6 minutes à la place de ces informations. De la bonne musique choisie par France Inter. D'accord. Et nous reviendrons après ce mouvement de grève de 6 minutes pour finir la bande originale avec Thierry Lhermitte. Dans cette bande originale, Laïla Cadeau,
bonjour
Bonadine,
à tous.
Guillermo Gouin. Bonjour Guillermo.
Bonjour.
Alors, Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Pastureau. Et notre invité Thierry Lhermitte.
Bravo.
Thierry Lhermitte, parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale, qui vient nous prévenir qu'il est possible maintenant d'envoyer des SMS 92-300 tapant N-E-U-R-O pour qu'il y ait 10 euros de plus sur votre facture téléphonique sans plus de soucis administratifs, avec la possibilité de recevoir, Daniel Morin,
un bordereau.
Un reçu pour défiscaliser récupérer 60%.
Ben, dis ce qui est intéressant.
Voilà, c'est ce qui est intéressant.
Et on peut faire des dons plus grands aussi.
Directement à la FRM. FRM.org, c'est le site internet de la Fondation pour la Recherche Médicale qui a de nombreuses études et de nombreuses pistes de recherche. Là, en l'occurrence, ils sont focalisés pour cette année sur la maladie d'Alzheimer. Ils sont venus... ça fait combien de temps que vous êtes le parrain?
Parce 12
que
ans.
12 ans,
12 ans, ouais.
Et vous allez dans les laboratoires et vous avez une activité une curiosité. Vous interrogez les professeurs,
Je
voulez
rencontre
savoir ce qui se passe.
Des gens formidables qui m'expliquent merveilleusement la plupart du temps. Quelquefois, c'est compliqué, mais
tout cela est une démarche bénévole. Tout cela est une démarche passionnée.
Sûr,
non, mais bien sûr, mais il faut chaque fois le préciser. C'est bénévole, c'est passionné. Et est-ce que on est alors vous êtes encore plus connaisseur, j'ai envie de dire, que nous tous profanes. Mais est-ce que vous rentrez le soir avec une intime conviction que quelque chose va être trouvé? Ou à l'inverse, vous êtes miné parce que vous dites ils n'y arriveront pas? Est-ce que vous êtes humainement touché par ce que vous voyez?
Très souvent, je sors du labo en me disant ça y est, ils ont la découverte du siècle, il faut absolument que ça se fasse. Ça t'est arrivé aussi.
Oui.
Nagui, on est visité un laboratoire et je disais mais faut donner cet argent, faut absolument que ça arrive. Bien sûr.
Mais j'étais d'autant plus vous qu'il y avait une chercheuse qui semblait être l'une des plus performantes, performantes de ce laboratoire de recherche et qui arrivait en fin de CDD et son CDD n'allait pas être renouvelé et elle avait un salaire de 2000 euros et il n'avait plus de quoi la payer et donc elle allait repartir, ce qui fait que
elle allait abandonner ses recherches.
Mais elle ne pouvait pas continuer puisqu'elle n'avait plus de salaire.
Et grâce à Nagui maintenant, elle s'occupe de l'éclairage sur Taratata. Alors, elle
est
pas belle la vie.
C'est chouette.
Ça m'a traversé l'esprit, je te jure.
Mais Thierry, vous avez tourné un film sur Alzheimer où vous jouez un grand-père, c'est
ça? Oui, absolument. Qui s'appelle La Finale et qui sortira en 2018. Ouais, absolument.
Mais alors là, quand vous êtes imprégné de toutes ces connaissances, encore une fois, on se sent quoi? On se sent faible, on se sent petit, on se dit on n'est qu'une goutte d'eau, mais c'est des gouttes d'eau
mais
qui peuvent...
on réalise quand on visite beaucoup de labos que c'est une suite de petits pas, que les découvertes de la pénicilline, il y en a une par siècle. Là, c'est des petits pas qui se font les uns après les autres, et puis un chercheur arrive, publie quelque chose, et puis ensuite il y a d'autres chercheurs qui essayent de prouver que ça marche pas. C'est ça qui est désespéré. C'est terrible comme métier. On s'emmerde pendant 5 ans, sort un truc, et ensuite tous vos collègues de la spécialité essaient de prouver que ça marche pas. Enfin, en gros, les autres, c'est une façon de parler, les autres chercheurs essayent de reproduire ce protocole. Et si ça se reproduit dans d'autres laboratoires, à ce moment-là, ça devient une avancée scientifique. Voilà, mais quelquefois, oui, c'est pas reproductible.
C'est ça.
C'est ça qui est dingue.
Tout n'est pas sombre. Il y a aussi quelques lueurs d'espoir.
Non, mais ça avance.
D'où l'intérêt, voilà. D'où l'intérêt de poursuivre, comme on l'expliquait tout à l'heure, ces quatre pistes pour lutter contre Alzheimer dans différents domaines, que ce soit le dépistage, que ce soit le problème génétique, que ce soit l'inflammation et
sauvegarder les emplois de ceux qui travaillent.
Pardon ?
Sauvegarder aussi les emplois de ceux qui travaillent.
Parce qu'ils cherchent, et l'argent que l'on donne à ces recherches va d'abord à la recherche et pas du tout au salaire de ceux qui sont dedans.
Non, mais aussi, ça en fait partie.
Absolument, c'est important.
Et à cette occasion, moi, j'ai découvert, Thierry Lhermitte, que vous aviez de la famille, en fait, assez impliquée.
En fait, vous avez de la famille. Non, mais
dans la science. Vous étiez au courant ? Maintenant, votre grand-père était neurologue, et votre oncle aussi.
Mon oncle aussi, oui, était spécialiste de la sclérose en plaques. Qui est aussi une maladie neurodégénérative.
Voilà. Qui peut un peu expliquer aussi peut-être votre goût, votre intérêt.
Peut-être,
pour,
mais sauf que voilà, j'ai pas fait attention assez à ça que dans ma jeunesse.
Ouais, il y a le signe de l'ermite, j'ai appris.
Ouais, c'est un signe un signe de la sclérose en plaques, quoi.
Voilà, ça a donné son nom à un problème médical en fait.
Un signe, voilà. Ouais.
Parce qu'il y avait un chercheur qui s'appelait
le grand-père.
D'accord, mais c'est comme Alzheimer en fait est le docteur qui est le premier à identifier la maladie.
Pas comme la maladie de Lyme, qui est un village.
Voilà. Il y a le syndrome de Nagui, aussi, quand t'es désagréable avec tout le monde sans raison, t'es syndrome de Nagui.
Là, mais aucun chercheur ne veut se pencher là-dessus.
Non, trop bon dossier.
C'est Tanguy Pasture. Tanguy Pastureau à midi, pardon, hein, un peu plus tard, quoi, midi 11, grave. Je suis désolé. Tanguy, cela fait donc 3 jours que le président Macron est à New York.
Oui, avant on avait honte quand on envoyait notre président aux États-Unis parce qu'on le trouvait soit plouque, soit flasque, soit pas charismatique, soit l'étroit. Mais avec Macron, notre fierté nationale est au zénith et on a envie de crier « Cocorico ! Cocorico !» car il a tout, notre héros. Il est ferme, il est jeune, il est beau comme l'iPhone 10 et lui aussi a la reconnaissance faciale puisque quand il voit Brigitte, il la remet direct. Mardi, notre héros est arrivé à New York, où les gratte-ciels sont immédiatement entrés en érection. Ils ont pris chacun 15 étages de plus. Et dans les fast-foods, le ketchup s'est mis à gicler des bouteilles. Si Macron avait fait Sex and the City, il aurait emballé le même soir Carrie Bradshaw et ses copines. Mais bon, à l'époque de la série, il n'avait que 7 ans et demi. Il s'est rendu à l'ONU, où il a croisé Trump, la star bipolaire, qui a menacé dans un discours de détruire totalement la Corée du Nord. Lui, c'est Attila avec la coupe de François Valéry en 78. Quand il y a un souci, sa technique, c'est de tout péter. À côté, Rambo 4, c'est l'histoire de la comtesse de Ségur dans laquelle Sophie fait boire du lait à un chaton. Il est timbré. Avec le nôtre qui se prend pour Bonaparte, les couloirs de l'ONU, c'est l'HP. Il y a Trump qui crie « Ah, je vais tout défoncer !» Macron qui répond « Ok, mais ne trouves-tu pas que je suis beau ?» Et Merkel qui traîne en veste vert pomme. C'est la seule qui va se faire bouffer par les verts avant d'être clemsée. Alors Macron à l'ONU est passé après Trump. Donc c'est comme au bac quand vous tombez à l'oral de France. Juste derrière le type qui a étudié un seul thème sur 12, il a brillé. Il a parlé devant 130 nations. Même Daniel Alombroso dans Jeux sans frontières faisait pas ça. Il a dit qu'il fallait échanger avec tout le monde, l'Iran, le Qatar, la Russie, et que tous ensemble on pouvait se kiffer. Ça faisait 60 ans que l'âme de Gandhi glandait dans le corps d'un teckel. Elle s'est dit ras-le-bol de Rex, allez où, je m'installe dans Macron, ce qui est notre rêve à tous.
Et le président Macron donc s'est adressé aux Français de New York.
Oui, et il leur a dit revenez, la terre de conquête c'est la France. Les X se sont installés là-bas en se disant c'est le seul moyen d'échapper aux grèves de la CGT, au RSI et à Joséphine Ange Gardien. Et là Macron vient leur dire que le rêve américain c'est nous. Et c'est vrai, yes papa, moi je suis reboosté. Je sais qu'une gastro mal guérie et je prends votre place Nagui. Et avant janvier, je suis dans le bureau de Mathieu Gallet à appeler mes parents en leur disant j'avais pas payé 40 ans de redevance pour rien. Là j'ai un mini bar, la vue sur la tour Eiffel et j'ai signé 12 travailleurs détachés polonais pour la grille 2018. Macron va être content sur l'année, on sera à 97,30€. Alors dans un moment d'emphase, digne des plus grands illuminés, Dali, Francis Huster, Ariel Dombal, Macron a même commis un lapsus. Hein, il a dit, en novembre, on sortira de l'état de droit. Donc l'assistance médusée s'est dit, oh my god, Kim Jong-un l'habite. Dans 2 mois, il va y y avoir des portraits de lui partout dans les rues avec obligation pour le peuple de se caresser en dessous. Mais en fait, il voulait juste parler de la fin, ouf, de l'état d'urgence. Alors ensuite, notre poster FHM sur pattes a été interviewé sur CNN, hein, où il a parlé de Brigitte, qui en deux jours à New York a changé 16 fois de tenue. Elle a la vie que Madonna a sur scène, sauf qu'elle ne frotte pas son boule, hein, danseur tout en cuir. Alors il a dit, Brigitte, c'est mon ancrage, c'est beau, même si Olivier de Kersauzon utilise les mêmes mots quand il parle de son zodiaque qui est dans le port de Quiberon. Puis il a déclaré, je l'aime parce qu'elle me dit toujours la vérité, alors que nous, c'est le contraire. Quand notre femme nous dit, t'as un peu grossi, bébé, c'est plus des pneus que t'as sur les hanches, ce sont les lèvres de Lana Del Rey. Eh ben, on fait la tronche. Alors bien sûr, Macron a taclé les médias français, hein, c'est la mode en politique. Il a dit qu'ils étaient narcissiques. Hein, en fait, il a fait un transfert, il voulait parler de lui et a mis ça sur les médias. Hein, c'est comme quand Mylène Farmer regarde le 20h et qu'elle dit à Satan, sa chauve-souris apprivoisée, eh ben j'ai trouvé ça un peu triste. En attendant, the American dream is here in France, so go for it, I have the potato, moi je sais pas ce qui m'arrive, allez bye bye.
Merci de l'invitation.
La bande originale, Maggie, sur France Inter.
Grand malade.
C'est clair.
Thierry Lhermitte, est-ce que la manière dont vous êtes le parrain impliqué de la Fondation pour la Recherche Médicale n'est pas non plus chronophage pour votre métier de comédien, de scénariste, d'auteur?
Ça prend pas mal de temps, mais j'aime ça. Non, franchement, je ne rechigne pas à y aller parce que ça m'enthousiasme à chaque fois. Donc voilà.
Et côté comédie, vous avez des projets?
Non, point. Un film l'année prochaine, voilà. Et puis sinon, j'ai beaucoup d'autres activités qui me prennent énormément de temps, dont la fondation. Ouais.
Mais vous n'avez plus envie de moins jouer ou on vous propose moins de rôles?
On propose les deux, on va dire. Au théâtre, mais ça va, pas tout de suite, parce que ça m'a fatigué.
Oui, ça on l'a compris.
Et sinon, si, on me propose des films, dont un super pour l'année prochaine.
Voilà. Très bien. Voici le rêve de Daniel Morin, c'est maintenant. Ah.
Bon les amis, vous avez tous entendu la nouvelle terrible qui est tombée ce matin. Florian Philippot quitte le Front National. Oh, la claque.
Le choc.
J'ai appris ça dans le RER. Ça m'a mis un coup. Du coup, j'ai piqué mon petit roupillon dans le transport public, j'ai immédiatement été plongé dans un rêve frontiste. Dans mon rêve, j'étais chez moi, pépère, en train d'écouter France Culture, une émission passionnante consacrée à Pablo Juanito, un chanteur cubain martyr emprisonné pendant 45 ans dans une poubelle à La Havane. Juan Papito Pedro, torturé, chanteur engagé à qui on a coupé la langue, mais qui continue quand même à pratiquer son art. Son dernier album, est un succès planétaire. Succès planétaire à l'échelle France Culture. 13 exemplaires vendus. Bref, je prenais du bon temps quand le téléphone a sonné. Allô? Oh mon Dieu! Oui, bonjour Marine. Ah mais oui, bien sûr, oui, je serais même honoré. Non, soyez rassurés, je déteste ça, le couscous. Hein. Ah non, comme disait ma grand-mère Marguerite, juste avant d'être tendue en 45, une bonne choucroute à bretzel croustillant et en avant Guingamp. Oui, Marine, oui, à très vite, bisous. C'était Marine Le Pen qui me proposait de prendre la place de Florian Philippot à la vice-présidence du parti. Enfin... Enfin, j'allais évoluer professionnellement dans un univers sain et patriote. Fini la collaboration forcée, fini les tours de table avec les bronzés de la bande originale, fini le despotisme sarrasin de Muammar Ben Nagui, le tyran égypto-fasciste, fini la présence insupportable des chanteurs de gauche, des comédiennes syndiquées, des écrivains sexuellement déviants. J'allais frayer au milieu d'un environnement au profil caucasien rassurant, parfois consanguin, mais rassurant tout de même. Et puis un texto m'a sorti de mon rêve. T'es à la bourre, mind-toi le cul, signé Nagui. Monde de merde. Allez, on change de pays. La Russie, pays de culture, on le savait, ça n'avait échappé à personne. Hier, bien sûr, mais aujourd'hui encore, la preuve, une statue a vu le jour, il y a 3 jours, à Moscou. Et là, je peux vous dire que la culture, elle en sort grandit. Une sculpture de 7 mètres de haut représentant un type qui pointe une Kalachnikov. Qui c'est le type? C'est Mikhail Kalachnikov, qui tient son bijou, sa perle, sa joconde, le fameux AK-47. Par chance, il a une bonne gueule, hein, monsieur Kalachnikov. On dirait un croisement entre Tintin et Dodo la Saumure. N'empêche, que la Kalach. Quel beau produit. plus de 100 millions produites dans le monde. C'est la Rolls du dézingueur, la Rolex du terroriste. À ceux qui s'indignent, un ministre russe répond « Mais le fusil d'assaut AK-47 est devenu un symbole russe au même type que la vodka, le manteau de fourrure, la balle à Leica et le caviar. » Sauf que, excusez-moi monsieur le ministre, moi je connais quelqu'un qui tous les soirs bouffe du caviar, se saoule à la vodka et va jouer bourré de la balle à Leica en manteau de fourrure. Et ben je suis désolé, il a tué personne, Augustin Trapenard. Mais cette info quand même, je vous l'avoue, m'a turlupiné. Et moi quand je suis turlupiné, ça agite mon sommeil. Et je fais des rêves étranges. Dans mon rêve, j'étais avec un nouvel ami qui me disait grand bien de la Kalachnikov. N'empêche que oui, le produit est impeccable et particulièrement fiable, me disait donc Patrick Balkany en sortant de la soirée échangiste chez Evelyne Delia.
Oh non.
Elle méritait bien une statue, cette bonne calage. D'autres pays n'ont pas attendu pour lui rendre hommage, a même rajouté le maire de Levallois pendant que nous roulions à 160 en marche arrière dans un Uber conduit par Benoît Magimel. Inutile de vous dire que quand tu rêves que c'est Benoît Magimel, ton chauffeur Uber, bah tu te réveilles. Hein. N'empêche que c'est vrai, la calache, on la retrouve honorée dans bon nombre de pays et d'organisations sympathiques. Le Mozambique, le Zimbabwe l'affichent sur leur drapeau. Notons que le célèbre fusil d'assaut du monde, le plus célèbre fusil d'assaut du monde, a aussi une place de choix en Égypte ou au Caire, au palais Abedin, siège du gouvernement, on peut admirer une Kalachnikov en or massif.
Et alors ?
Waouh ! Une Kalach en or massif ! Ça fait rêver ! Du coup, j'en ai rêvé ! J'ai rêvé qu'un vieux gars en djellaba venait vers moi et m'expliquait d'où venait cette Kalach en or massif. D'après la légende, il s'agirait d'un cadeau fait par un immigré égyptien qui a fait fortune en France dans le secteur du divertissement catégorie CSP-. Au départ, comme Kalachnikov en or était prévu pour tuer Michel Drucker, Sébastien Lopez, Stéphane Bern, Nico Saliaga, Jean-Pierre Foucault, Christophe de Chavannes, Thierry Ardisson et Patrick Sébastien. Mais il n'en a pas eu besoin. Il a réussi à se faire une place au soleil tout seul en inventant le karaoké avec des trous dans le texte à une heure de grande écoute sur France 2. Du coup, plus besoin de Kalach. Il en a fait don à son ami, le président Hosni Moubarak, qui, pour le remercier, lui a offert une certaine Leïla. Waouh ! Inutile de vous dire que quand tu commences à rêver de Leïla, t'as pas envie de te réveiller. Et ben là, comme un con, le réveil a sonné. À
fort,
bravo.
Grave, fort. Mais on est lundi en même temps, début de cette semaine, t'es en pleine forme, c'est pour ça. Thierry Lhermitte vient nous parler de la Fondation pour la Recherche Médicale, la prévention pour combattre la fatalité, parce que il y a des possibilités, alors peut-être pas pour prévenir la maladie, mais en tout cas, comme on l'a dit tout à l'heure, pour que le terrain soit plus, on va dire quoi, soit moins accueillant pour la maladie d'Alzheimer, c'est ça.
Bah oui, l'activité physique et intellectuelle.
Alors il y a un surtout. Livre, c'est un livre blanc qui dit que clairement les chercheurs sont unanimes sur le fait que même si la maladie est pour l'instant incurable et si on fait tout pour trouver des solutions, les études affirment qu'en prévention on peut par soit l'activité physique, l'activité intellectuelle, l'activité sociale, l'alimentation, plein de petits détails de la vie quotidienne finalement font qu'on peut retarder. Cette maladie d'Alzheimer ou ralentir sa progression.
Il y a aussi tout ce qui concerne le stress aussi, parce qu'en fait, on a établi, enfin, les chercheurs ont établi un lien avec les risques cardiovasculaires et l'apparition de la maladie. Donc tout ce qui est pratique à risque, comme le tabac, tout ça.
L'alcool,
faire très attention, et aussi comment gérer son stress.
Il faut le dire. Oui.
Le manque de sommeil aussi, ou le mauvais sommeil. Donc tout ça, c'est.
Le mauvais sommeil, faites gaffe, les gars.
Parce qu'il y a des rêves pourris.
Tout ça pour permettre aussi de faire en sorte que les risques cardiovasculaires soient réduits.
Thierry Lhermitte, c'est uniquement pendant le mois de septembre cette opération de don pour Alzheimer ou...
Je crois que c'est c'est pendant le mois d'Alzheimer et aujourd'hui je crois que c'est la journée mondiale d'Alzheimer.
D'accord, donc c'est pour ça que ce soir vous serez aussi l'invité Anne-Elisabeth Lemoine dans C'est à vous pour parler de cette journée spéciale. Mais surtout ça veut dire que si vraiment on a envie que le mois de septembre, qui se termine quand même dans une dizaine de jours, soit le plus rempli possible en termes de dons, c'est maintenant qu'il faut le faire.
Il y a 900 000 personnes touchées. Je pense que si chaque personne qui connaît quelqu'un qui est touché par Alzheimer et qui écoute France Inter à cette heure-là, donne, voilà, tape neuro, N-E-U-R-O, sur son 92-300 SMS, ça fera avancer énormément.
Ah ben, si chaque auditeur de cette émission donne 10 euros, on serait à 18 millions d'euros. Ouais. Donc, ça peut faire du bien.
Comme sur les 18 millions, il y en a forcément une grosse partie qui connaît quelqu'un qui est touché par l'Alzheimer, ce serait une bonne idée.
Ouais, mais même autant tout à l'heure ce qu'a raconté Tom, c'est extrêmement émouvant, mais quand on ne connaît pas spécialement d'Alzheimer autour de soi, j'imagine, la manière dont tu en as parlé, ça, c'est fort, c'est touchant. Et comme l'a dit Tom tout à l'heure, ce sont les familles entières qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Il y a une résonance immédiate dans l'environnement familial, et puis on se sent quoi, un peu responsable de ne pas avoir été plus présent. Tu posais la question sur la solitude.
Oui, non, mais parce que mon grand-père s'occupait de ma grand-mère, donc jusque-là, entre guillemets, tout allait bien, mais après, quand ma grand-mère est partie, lui était tout seul, donc c'est pour ça. Bon, après, on l'a placé en maison de retraite parce que c'était plus simple, parce que tout seul, du coup, il y a eu 2-3 petits pépins qui nous appartiennent, mais voilà. Donc du coup, c'est pour ça, la solitude, c'est très compliqué, il faut faire très attention à ses proches, et je pense que si vous avez le moindre doute, allez voir un médecin, et puis comme ça permet de vérifier tout ça.
Ouais, tu les as pas trop aidés, quoi.
C'est moche. C'est méchant. Non, pas là.
C'est moche, c'est moche. Mais c'est Daniel Morin.
Ouais, c'est ça. Ouais,
c'est un pléonasme. Moche et Morin, c'est un pléonasme. Pierrot Lunaire, cet été.
Perdu entre vice et vertu. Question du jour, c'est salutaire. Qu'ai-je fait de mon Pierrot Lunaire? Tant d'indolence bafouée, de joie au pilori cloué, se faire le lit de la misère. Qu'ai-je fait de mon Pierrot Lunaire? Où diable l'ai-je donc rangé? L'enfant d'hier et sa lumière, à Paris, Dublin ou Tanger. Qu'ai-je fait de mon Pierrot Lunaire? Qu'ai-je fait de mon Pierrot Lunaire? La 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 la. Acculé, j'ai mis sur le coup les meilleurs limiers du secteur. Fox, Mulder, NSA et tout. J'ai les moyens, je connais l'auteur. Je confesse, on l'aura compris. L'angelot déchu, c'est Bibi. Chanteur sous vide en quarantaine. Depuis qu'il n'y a plus de Pierrot Lunaire, sa vie limite à l'idée fixe. Cette innocence qui va mourante. J'ai déposé une plainte contre X, assortie d'une main courante. Le dénouement, je dis rien, motus. Hommage à ton imaginaire. D'ici là, on se voit sur l'opus. Au bout du tunnel, la lumière. La 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 la.
Jolie parole, hein, ou du tunnel à lumière, c'est tout ce que l'on espère en tout cas pour cette lutte contre la maladie d'Alzheimer, ce mois de septembre consacré à cette lutte. Cette journée aujourd'hui est mondiale contre la lutte d'Alzheimer, on l'a dit tout à l'heure, toutes les 3 minutes, il y a un nouveau cas d'Alzheimer qui est révélé dans le monde. Il y a 1 million de personnes touchées en France et 200 000 de supplémentaires par an. Donc il faut vraiment ne rien lâcher, continuer de se battre et aider ces 4 projets dans les 4 pistes choisies par le comité d'éthique et les médecins et les spécialistes de la Fondation pour la Recherche Médicale. Thierry Lhermitte est venu nous le présenter. Des excuses à présenter peut-être à Thierry et à nos auditeurs. Daniel Morin,
déjà, désolé pour tous les amis agriculteurs de Thierry Lhermitte qui ont découvert ce matin qu'ils étaient des criminels, des assassins, des serial killers, des salauds sur le point de perdre leur boulot. On dit merci qui ?
Merci Nagui. Désolé pour Thierry Lhermitte qui a découvert ce matin qu'au théâtre, il ne savait rien, qu'il ne servait à rien. C'est le public qui décidait de tout. On dit merci qui ? Merci Nagui. Désolé pour Guillermo Guiz. Oui, tout à l'heure à la pause, on a discuté entre nous. Ouais, ouais. Et à l'unanimité, toute l'équipe a décidé de ne pas venir te voir au Point Virgule à 20h du jeudi au samedi.
Merci beaucoup Thierry Lhermitte.
Merci à vous.
Mille fois. Et je rappelle, Fondation pour la Recherche Médicale, le site internet c'est frm.org et vous tapez 92 300, enfin vous envoyez un texto 92 300 avec tout simplement en écrivant neuro, N-E-U-R-O, vous recevrez un autre texto qui vous dira est-ce que vous acceptez de donner 10 euros sur votre facture à la Fondation pour la Recherche Médicale pour lutter contre Alzheimer, vous confirmez en envoyant OK et ce sera fait et ça fera du bien forcément à notre prochain. Demain, vous avez le livre et vous serez sur scène avec lui pour deux représentations exceptionnelles. Demain, Francis Huster sera notre invité à ce micro. Merci Thierry, bonne journée. Et ce sont les carnets de campagne maintenant de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Nagui, bonjour les amis.
Bonjour. Salut.
Et je lance une idée quand même à propos de la lutte contre les maladies. Pourquoi pas ouvrir une cagnotte solidaire auprès des gagnants du loto ?
Ah, pour les obliger à donner ?
Bah oui.
Ouais.
Ben non.
Oui, mais tout à fait.
Non, mais c'est sérieux.
Autant faire un prélèvement immédiat.
Moi, je crois qu'ils donnent beaucoup.
Généralement, ils donnent beaucoup.
Ils donnent beaucoup.
Ou alors, il y a ceux qui donnent à la Fondation pour la Recherche Médicale et qui ne jouent pas au loto.
Ah oui.
C'est une autre manière de gagner.
Exact. Bonne journée. Salut les amis.
Ciao. À demain.